Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette grande tchatch, le ravi Radio Grenouille. La grande tchatch, c'est tous les quatrièmes samedis du mois sur les 3-8. Et puis le ravi, c'est tous les premiers vendredis du mois dans tous les kiosques de la région PACAM. Le Ravi, c'est également un site internet www.leravi.org avec des articles, bien entendu, beaucoup de petites choses, mais également la possibilité de vous abonner. Monsieur Gaby Charot, vous êtes abonné au Ravi ?
Non, voilà, vous allez m'abonner, je pense.
Vous ne sortirez pas d'ici sans être abonné. Aujourd'hui, on continue sur la liste des législatives avec Gaby Charoux, maire de Martigues, conseiller général, président de la communauté d'agglos du pays de Martigues, mais également, et c'est une première pour lui, candidat aux législatives dans la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône, en remplacement de M. Vaxès, démissionnaire. Gaby Charoux, j'ai pas signalé, mais vous êtes communiste, enfin franc de gauche, pardon.
Apparenté
franc de gauche. Une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité, et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Devinette. Qui a été désigné maire communiste d'une grande ville des Bouches-du-Rhône sans avoir eu besoin de mener campagne ? Quel candidat du Front de Gauche est donné largement favori pour devenir député aux législatives dans une circonscription pourtant redécoupée par un gouvernement de droite ? Quel est l'homme politique dont le pire adversaire est celui auquel il doit toute sa carrière ? Chers auditeurs, on ne peut rien vous cacher, cet élu est bel et bien notre invité, Gaby Charoux. Martigues est une ville singulière, encerclée d'industrie, elle a aussi les pieds dans l'eau, ce qui lui vaut le surnom de Venise provençale. Autre spécificité, alors que partout en France le communisme municipal s'érode, ici, il s'est perpétué sans faillir avec la réélection systématique depuis 68 de Paul Lombard. Lorsque, à 81 ans, après 41 ans de mandat, il souhaite prendre du recul en démissionnant, vous lui succédez avec son parrainage. Vous êtes alors premier adjoint et vous voilà en 2009 devenu à votre tour à 71 ans, monsieur le maire. Vous avez toujours pris votre temps en politique. Lorsque vous êtes élu conseiller municipal pour la première fois, en 89, vous avez déjà 47 ans. Directeur du Centre d'information et d'orientation de Martigues, Paul Lombard a su vous convaincre d'intégrer sa liste comme représentant de la société civile. Mais vous attendez encore votre 59e anniversaire en 2001 pour prendre votre carte au Parti communiste. Président de l'agglo depuis 2005, premier adjoint et conseiller général depuis 2008, maire depuis 2009, vous voilà maintenant candidat à une nouvelle succession, celle de Michel Vaxès, le député PCF dont vous étiez le suppléant. A priori, l'objectif est à portée de main. Le gouvernement a gauchi votre circonscription, qui était déjà pas mal, la 13e, la jugeant de toute façon définitivement perdue pour la droite en tripatouillant la carte électorale dans l'espoir de marquer des points du côté d'Arles. C'est sans compter un adversaire inattendu, Paul Lombard, le maire honoraire de Martigues, votre parrain en politique qui vous vaut désormais une franche inimitié et se représente en juin contre vous devant les électeurs. Mais le temps où vous étiez un novice en politique est désormais loin, comme celui, il y a un demi-siècle, où vous quittiez votre Algérie natale chassée par le cours de l'histoire. Vous aviez tout juste 20 ans. De toute façon, la nostalgie n'est pas votre fort. Vous préférez toujours batailler pour faire chanter les lendemains. Et la campagne, aussi tonitruante que réussie de Mélenchon, devrait, une fois de plus, vous porter chance.
Gaby Charoux, pardon. Gaby Charoux, un commentaire à ce portrait ?
Alors écoutez, je crois qu'il est juste, il y a juste une petite erreur sur l'âge au moment de la nomination en tant que maire. Hein, voilà, hein, c'est.
Qui était donc alors
C'est un âge que je n'ai pas encore atteint.
D'accord.
Voilà, donc non. Alors ceci étant, à part cette petite précision, oui, bien sûr, hein, c'est juste, c'est vrai. J'ai aussi une vie de famille, voilà, avec des enfants et des petits enfants. Et puis oui, je ne reste pas nostalgique d'une autre période ni d'un autre pays. Voilà, je suis né à Alger, j'ai vécu. Alors la constante, c'est que j'ai souhaité continuer à vivre au bord de la Méditerranée parce que ben, cette mer, c'est toute ma vie. Voilà. Alors, d'un côté nord de l'Afrique ou du côté sud de l'Europe, franchement... Voilà, pour moi, de ce point de vue-là, il n'y a pas une très très grande différence.
Voilà, à défaut de Méditerranée, vous êtes plutôt au bord d'un étang, là.
Oui, mais... Alors... mais vous savez, Martigues est bercée par l'eau, je pense qu'on va y revenir, hein. Et donc c'est un rêve aussi.
Gaby Charoux, on est en pleine, ça n'a échappé à personne, et vous, le premier, en pleine élection présidentielle, en pleine campagne.
Oui,
il s'est déroulé
sûr.
Un drame, il n'y a pas si longtemps que ça, à Toulouse, avec la tuerie qui a eu lieu. Alors, La campagne s'est arrêtée quelques jours, aujourd'hui elle reprend, et avec elle les polémiques, les questionnements, drame du communautarisme, drame de l'immigration, drame du vivre ensemble qui ne marche plus. Comment vous définissez, comment vous analysez ce drame ?
Oh, moi je crois qu'il y a aussi un drame de la folie ordinaire, hein, quasiment. Hein. Et puis un certain nombre de questions peuvent se poser aujourd'hui, indépendamment de cette interruption de campagne sur laquelle peut-être je reviendrai, mais un certain nombre de questions peuvent se poser. Comment on peut ne pas être plus attentif à quelqu'un qui est repéré? Comment on laisse se dérouler un certain nombre d'assassinats successifs et que au bout de 5-6 morts, 4 et 2 et 1, on met tous les moyens pour très 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 rapidement repérer le criminel, le terroriste, le fou, ce sont des questions qui vont se poser demain encore. Moi je voudrais pas qu'on instrumentalise au sein du débat pour les présidentielles et législatives assassinat, ce crime, ce drame pour des personnes qui ont été tuées sauvagement. Que ce soit des militaires ou des enfants ou leurs professeurs, mais au contraire, on prenne beaucoup de temps, de distance pour regarder comment la question se situe, non pas dans le contexte de crise, mais dans notre société demain. Et puis, aller faire la campagne électorale devant les cercueils, je trouve que c'est pitoyable. Voilà, je le dis franchement, je pense plus honorable et juste la posture de Mélenchon dans ce domaine, qui dit la meilleure façon de respecter, d'honorer, eh bien, c'est de continuer la vie ordinaire. Voilà.
Ce drame, Gaby Charroux, a eu un autre effet, c'est de remettre au centre de la campagne un thème, une thématique, celle de la sécurité. C'est quelque chose qui va aller crescendo. On a vu un peu les candidats ce week-end qui rebondissaient là-dessus, pour Marine Le Pen, pour Nicolas Sarkozy, y compris pour François Hollande. Mélenchon, la sécurité.
Eh bien, écoutez, je crois que il serait pas juste de dire dans la campagne des présidentielles, des législatives qui va suivre, hein, parce qu'il y a un tout, hein, évidemment, hein, je crois que ça, il faut le poser, bien sûr, la sécurité est le thème central de l'affaire. Je ne crois pas que ce soit le thème central. C'est un des thèmes, mais lorsqu'on veut parler de l'emploi, du pouvoir d'achat, de ce que nous réserve l'Europe, de la dette, de l'économie, du logement, d'une réforme fiscale qui est indispensable dans notre pays, de la santé, de l'éducation. On va parler aussi de sécurité, mais on va en parler d'une autre manière, avec tolérance, respect de l'individu, d'où qu'il vienne, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit sa croyance également. Je crois que la laïcité doit être au cœur, au contraire, de ce débat, et non pas la sécurité dans le sens que veulent bien lui donner des candidats comme Marine Le Pen ou comme le président de la République actuel.
Alors ce jour, justement, Mélenchon avait réussi à imposer les thèmes que vous venez de lister dans la campagne. Est-ce que ce drame de Toulouse va faire dériver le débat sur un autre registre? En tout cas, effectivement, clairement, le Front National et l'UMP veulent jouer cette carte-là. Ça avait réussi à Nicolas Sarkozy en 2007. C'était son thème fort.
Je comprends.
Est-ce qu'ils vont réussir, d'après vous, ce hold-up
Souvenons-nous, souvenons-nous des incidents qui ont juste précédé les élections présidentielles de 2002. C'est quand même le drame de l'école. De 2007, ou quelques jours avant, comme opportunément, mais bon, je veux n'avoir pas d'hypothèse là-dessus, ce pauvre retraité agressé dans sa maison, qu'on a brûlé, qu'on a frappé, etc. Voilà, on fait ressurgir les vieux démons autour de la sécurité. Moi, je crois que, vous savez, la grande différence entre certains candidats et nous, c'est que par exemple, le candidat sortant, le président de la République, l'UMP, Nicolas Sarkozy, il met le débat sur le plan de l'irrationnel et de l'émotion en permanence. Voilà. Nous voulons le mettre sur un autre plan, sur le plan des besoins auxquels il faut répondre dans ce pays, en France, aujourd'hui, pour les citoyens qui y habitent. Et donc, je pense que toutes les questions que nous voulons évoquer ont en conséquence la question de la laïcité et de la sécurité. Et il me semble que si on règle la question, excusez-moi d'y revenir, la santé, l'éducation, les services publics, la dette, etc., etc., eh bien, nous répondrons de la meilleure des façons demain sur cette question-là aussi.
Alors, Jean-Luc Mélenchon fait une bonne campagne, même ses adversaires le lui reconnaissent. Est-ce que c'est pas en même temps, finalement, presque gênant, c'est-à-dire que c'est un tribun, un très bon tribun. Certains disent, revoilà Georges Marchais, revoilà la personnification d'un mouvement qui s'est toujours méfié comme ça, des partis communistes n'aiment pas trop ça. Je préfère parler collectif. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça le revers de la médaille du phénomène Mélenchon ?
Non, je ne crois pas. Je pense que dans une campagne présidentielle et législative, il nous faut d'abord un programme sur lequel on s'engage, des objectifs. Nous, on a créé le fameux programme partagé, qui est d'ailleurs encore en évolution, en construction, voilà, et dont on a vu...
Il va falloir se dépêcher quand même, les élections.
Voilà, mais il figure dans un petit livre rouge, voilà, programme partagé, où on a la déclinaison de tout ce que nous pensons sur les richesses, sur le pouvoir aux banques, bref, sur la planification écologique, etc., etc. Bon, il faut donc un programme, des objectifs bien clairs et définis. C'est notre cas. Et on a un certain nombre de ces questions qui font l'objet de surenchères aujourd'hui ou qui font tout simplement l'objet de captage par certains candidats. C'est le premier point. Le deuxième, il faut un certain nombre de slogans parce que c'est ainsi qu'on nous reconnaîtra. Nous, on dit « prenez le pouvoir ». En même temps, ce qu'on veut dire, c'est « rendez le pouvoir ». Mais pour le rendre, il y a une image, hein, si vous voulez pas être tendu, il faut pas jouer au mouton. Eh ben ouais, voilà, tout simplement. Hein. Donc, et troisièmement, il faut un et des porteurs de ce programme et de ces slogans. Et le porteur aujourd'hui qui a été désigné, choisi, c'est Jean-Luc Mélenchon au niveau présidentiel et puis les 1000 porteurs au niveau des circonscriptions pour les législatives. Et aujourd'hui, on a un porteur. Écoutez, si on le compare à Georges Marchais, ben moi je crois que c'est aussi une façon de dire que la qualité est présente. Et écoutez, bon, aujourd'hui, on voit, je sais bien que les sondages sont que des photographies à des moments donnés, qu'il y a une marge d'erreur de plus un ou moins un autour des chiffres. Mais aujourd'hui, vous avez vu ce que chacun a pu voir. Bon, il y a
une dynamique. Je rappelle aux auditeurs qui est à 14%, ce qui en fait le troisième homme de cette campagne.
Pardon ?
Je rappelle aux auditeurs qui est à 14%, ce qui en fait le troisième homme de cette campagne.
Oui, et donc aujourd'hui, cette photographie à ce moment de la campagne traduit le dynamisme, la dynamique de la campagne, la volonté d'un vrai changement en profondeur des habitants dans ce pays. Et peut-être pourrons-nous aller plus loin.
Alors revenons un peu en arrière quand même pour regarder l'avenir. C'était en juin 2011, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Les communistes avaient préféré à près de 40% un autre candidat que Jean-Luc Mélenchon, André Chassaigne, dont cette préférence elle avait été aussi indiquée par Michel Vaxès, dont vous étiez le suppléant. Vous oui. Mélenchon, c'était votre premier choix
Écoutez, oui, je dois le dire. Il me semble que aujourd'hui, on a fait la démonstration au Parti communiste français qu'on était pour un vrai rassemblement ouvert avec d'autres partenaires et on a fait, c'est quand même un événement assez exceptionnel et très fort de n'avoir pas un candidat du Parti communiste français, c'est-à-dire du parti le plus important du Front de Gauche. Par le nombre de ses élus, par le nombre de ses militants, par les forces qui sont déployées pour aller au porte-à-porte, sur les marchés, devant les écoles, etc., et distribuer les professions de foi, les documents, bref, les appels à venir, par exemple, jeudi soir, à la salle du Grès à Martigues pour un grand meeting sur les présidentielles. Bon, voilà, donc, on a fait cette démonstration.
Il n'y a pas une inquiétude parce que tous ces militants communistes, canal historique, on va dire, qui sont emballés par ces scores qui sont nouveaux. Il y a une génération qui n'a pas connu ce score-là. Elle a connu des scores qui sont relativement
famélique.
Faibles.
Famélique, voilà. 1,7 ou 1,8 la dernière
famélique.
Fois.
Ah ben ouais. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte de les perdre définitivement ? Est-ce que vous allez les retrouver après les présidentielles et les législatives ? Écoutez, ou est-ce qu'ils vont partir vagabonder, suivre...
Deux choses. D'abord, la vie ne va pas s'arrêter après la présidentielle, au soir du 22 avril.
Il y a les législatives.
Du 6 mai. Mais elle ne va pas s'arrêter non plus dans notre pays après les législatives. Bon, Évidemment, on espère le meilleur score et le plus grand nombre de députés, etc. Mais on va continuer sur cette même dynamique après. Et aujourd'hui, excusez-moi de vous contredire un peu dans cette hypothèse, mais on assiste non seulement pas à l'évaporation des militants qui quitteraient le parti pour aller d'ailleurs, je me demande bien où. Bon, peut-être dans un nouveau parti qui s'appellerait Front de Gauche, je n'en sais rien, hein, c'est peut-être ça que vous suggérez, je n'en sais rien. Aujourd'hui, non seulement on n'assiste pas à des départs du Parti communiste français, mais si j'en juge à ce qui se fait dans ma ville et dans ma circonscription, mais au contraire, on assiste à des arrivées et à des adhésions.
Parce que la crainte, elle est là, hein. Elle était là, elle est toujours là chez une partie des militants communistes en disant est-ce que le parti communiste va se dissoudre dans un ensemble plus grand, le parti de gauche, celui de Mélenchon, est-ce qu'il ne va pas manger finalement à terme du fait de l'aura médiatique de son leader, le PC. De la même façon, est-ce qu'il est possible, suite à ce succès, de maintenir une coalition aux frontières floues, le Front de Gauche? Est-ce qu'il ne faut pas passer la vitesse supérieure vers quelque chose de...
Écoutez,
vous avez un avis, vous,
l'histoire va... D'abord, on est en train de... Enfin, je crois, hein, dans ce pays, les citoyens sont en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Hein. C'est assez... Je crois que... Alors, on va concrétiser... Il faut regarder les résultats d'élections. Hein. Là, on est dans des sondages. Dans quelques semaines, dans 4 semaines maintenant, on aura des résultats. On verra ce qui s'est passé. Si cette dynamique continue à enfler, eh bien, c'est en effet une page nouvelle qui est en train de s'inscrire. Peut-être qu'aussi, il y a une autre page qui est en train de s'inscrire, c'est que depuis le dernier président de la République socialiste, donc de gauche, on va avoir un président de la République à gauche aussi. Bon, donc, on va voir. Moi, j'ai très confiance, j'ai une grande confiance dans ce qui est en train de se passer, et peut-être demain aurons-nous dans cette nouvelle dynamique, eh bien, peut-être une organisation nouvelle, une forme nouvelle qui reste à voir et à regarder.
Dans ces 14%, quelle est la part selon vous, encore une fois, quelle est la part du vote bras d'honneur et la part des votes adhésion réelle?
Moi je crois qu'il y a une grande part de vote adhésion, mais on ne peut pas négliger ce que vous dites d'un ras-le-bol, d'un assez de ce qui a été pratiqué dans notre pays et qui a échoué. Voilà. Depuis toutes ces années avec la droite au pouvoir. Donc il y a une part non négligeable. J'espère qu'elle va encore grandir parce qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ne se sont pas encore décidés. Les dernières semaines sont décisives à ce propos. Si ça peut encore enfler, et pourquoi pas approcher un score encore plus intéressant que les 14 qui sont donnés là au mieux dans le dernier sondage, je crois que voilà, dans ce pays, la dynamique et la prise de conscience, parce que je crois que les citoyens dans notre pays sont en train et ils peuvent recroire aux marqueurs fondamentaux, un peu à l'ADN, allez, on va dire à l'ADN de la société française. Cet ADN, je veux le rappeler, est issu pour une grande partie du programme du Conseil national de la Résistance. Voilà. Et que sécurité sociale, droit du travail, droit de la femme, etc., sont en train d'être, ont été, éducation, santé, services publics, ont été maltraités par les gouvernants actuels.
Mais alors, il y a un problème, c'est-à-dire que même avec d'excellents sondages, et si les choses se concrétisent, après, a priori, Mélenchon ne sera pas le prochain président de la République. Et le Front de Gauche dit il faut battre Nicolas Sarkozy. Et a priori, le mieux placé pour le battre, c'est François Hollande. Donc, toujours le même problème pour le Parti communiste, le Front de Gauche aujourd'hui. Comment on fait avec ce partenaire social-démocrate? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Jusqu'où on va? Vous dites, on ne va pas au gouvernement. Aujourd'hui, je crois que c'est clair. C'est bien le message, on n'ira pas.
Mélenchon ne veut pas aller au gouvernement, en effet, lui, personnellement.
Et le Parti communiste est plus incertain.
Voilà, on peut parler de ça. Écoutez, moi, je crois qu'aujourd'hui, la priorité dans cette élection, et je ne veux pas faire de plan sur la comète, parce que, je répète, on est dans une dynamique formidable dans notre pays, et deuxièmement, on est dans un moment d'histoire important, très important, peut-être qu'on
ne parler clair aux électeurs.
Je voudrais parler clair,
c'est
si vous
chose.
Me permettez. Voilà, c'est très clair. La première des choses, c'est qu'on veut réduire à la portion congrue l'extrême droite, c'est-à-dire le Front National. Voilà, vraiment éradiquer notre pays d'une force qui tient une place aujourd'hui. Voilà. Ceci en essayant de convaincre les électeurs qu'il y a mieux à faire ailleurs, premièrement. Deuxièmement, il y a aussi à se débarrasser d'une organisation de la politique en France, celle qu'on a connue et qui a fait les dégâts avec l'échec, parce qu'il faut parler d'échec, l'échec qu'on constate, les mesures utilisées sont sans effet. Sur l'emploi, sur l'économie, même si aujourd'hui on nous dit que c'est en train de frissonner, eh ben oui, quelques semaines avant l'élection. Voilà, ça c'est pour la droite et l'extrême droite. Assez, stop. Il y en a. On veut un autre modèle. Après, on regarde qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est objectif aujourd'hui. Et si on avait au deuxième tour un candidat à gauche contre un candidat à gauche ? Après tout, peut-être que demain ça peut arriver aussi, ça. Bon, allez, ok. Ce qu'on observe aujourd'hui dans les sondages ne nous laisse pas penser qu'on puisse avoir cela. Par ailleurs, il n'y a pas de danger, comme en 2002, probablement pas, d'avoir à la place d'un candidat de gauche le candidat du Front National au deuxième tour. Bon, les conditions, je rappelle, sont extrêmement différentes. Hein. D'une part, en 2002, Lionel Jospin était au gouvernement, et je voudrais pas refaire un peu cette histoire-là, mais je me souviens d'une réponse à des salariés d'une entreprise de Clermont-Ferrand, où Jospin disait « Mais que voulez-vous qu'on fasse ? On peut rien. Non, le gouvernement ne peut rien, moi je peux rien. » Bon, on l'a un peu payé hein, au premier tour en 2002. Voilà. Un, on n'est pas au pouvoir et il n'y a pas eu ces conneries qui ont été faites. Excusez-moi la grossièreté.
Je repose quand même la question. Ouais. Le Parti communiste a toujours été un peu déchiré entre sa volonté d'aller aux affaires, de prendre des responsabilités, contrairement à l'extrême gauche, le NPA aujourd'hui assez marginalisé, et en même temps, du coup, conduit à co-gérer et à co-signer des décisions très souvent éloignées de celles qu'il pouvait défendre pendant ses campagnes électorales. Est-ce que vous avez dépassé cette contradiction-là ou est-ce que ça va vous retomber sur le bout du nez une fois passé les législatives ?
Vous disiez, et c'est vrai qu'on l'a entendu, Jean-Luc Mélenchon a dit « je n'irai pas dans ce gouvernement ».
À titre personnel.
À titre personnel. Moi, je pense que la question, elle peut se poser. Voilà. Pour des ministres qui seraient du front de gauche, issus du front de gauche. Voilà.
Mais elle peut vraiment se poser, elle doit se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, les communistes sont hermétiques à cette idée de co-gouverner avec les socialistes ? Je parle des communistes, là, qui forment une partie du front de gauche.
Voilà. Moi, je crois qu'il ne faut pas être fermé à cette disposition. Mais, là encore... Comme je disais tout à l'heure, on a un programme, des slogans et des porteurs. Il faut qu'on revienne à l'application d'un certain nombre d'éléments de notre programme. Et il y en a dans beaucoup d'endroits qu'il faut obtenir. Et si ces conditions ne sont pas réunies, on sera des observateurs et dans une majorité à l'Assemblée. Je pense par exemple les services publics, le grand pôle de l'énergie, le grand pôle public de l'eau, par exemple, l'amélioration de tout ce qu'on a fait casser aujourd'hui dans l'école à propos de l'éducation, le retour à un service public de la santé, la défense des centres mutualistes, etc.
Ce que vous voulez dire par là, Gaby Charroux, c'est que c'est encore en négociation et que plus on va avancer vers l'échéance, plus ça sera encore en négociation.
Je crois tout simplement que plus on sera fort à l'élection présidentielle, plus on aura un grand nombre de députés à l'Assemblée nationale issus du Front de Gauche, et peut-être mieux on pourra se faire entendre. Voilà. Quand on a 1,7% à l'élection présidentielle, comment voulez-vous vous faire entendre ? Voilà.
Mais vous, si à peut-être titre personnel, demain... vous souhaitez qu'il y ait quand même des ministres qui fassent quelque chose de cette radicalité, que ça ne soit pas de l'ordre de l'incantatoire, parce qu'après le premier tour, pouf, qu'est-ce qui va se passer
mais, oui, moi je le souhaite, à certaines conditions. Si par exemple on met fin au mécanisme européen de stabilité, si par exemple on revient au vote en 2005 sur le référendum sur le traité de Lisbonne, si par exemple on revient pour un vrai
ça,
développement...
Ça c'est des vœux ou c'est des casus belli ça?
Ça, ce sont des demandes sur lesquelles il faudra bien que un gouvernement de gauche s'exprime.
Vous pensez que le capitaine de pédalo, pour reprendre l'image...
Oh, c'est il y a longtemps, ça.
C'était il y a longtemps, mais en fait, ça a été dit quand même. Mais il n'y a pas si longtemps, c'est vrai qu'en politique, tout va vite.
J'ai pas compris d'ailleurs très bien ce que ça voulait dire, franchement.
Bon, c'était pas très gentil, c'était l'image de...
Sauf que ça pouvait ne pas être trop gentil.
Oui, de quelqu'un qui est un peu mou, qui n'a pas de colonne vertébrale, comme avait pu dire Martine Aubry aussi très gentiment à propos de François Hollande.
Comme a dit Mme Chirac il y a deux ou trois jours.
Dans la campagne de Hollande, est-ce que vous sentez des choses qui vous confortent dans cette idée qu'il y a peut-être une place pour des ministres du front de gauche au gouvernement, hein, une volonté de faire autre chose, ouais, que de mettre un petit peu un coup de rose, un coup de peinture rose sur la façade.
Moi, ce que je crois très sincèrement, c'est que il ne faut pas seulement mettre un coup de rose. Pour faire très simple, aujourd'hui, on ne veut plus d'un gouvernement de droite. Bon, qui est agressif, qui a ruiné, je le répète, les fondamentaux de la société française, du modèle social et républicain français. Bon, mais pour autant, avoir quelqu'un qui, avec un grand sourire, ferait à peu près la même chose, j'ai pas dit la même chose, mais sur un certain nombre de fondamentaux, ne reviendrait pas en arrière, moi ça me satisfait pas non plus. Je souhaite qu'on revienne autrement sur un certain nombre de fondamentaux. Sur la démocratie dans notre pays, par exemple, dans les entreprises, dans les services publics, sur la laïcité, qu'on marque fort nos intentions et, je trouve pas de meilleur mot, nos marqueurs, notre ADN, voilà, ça tout le monde comprend ce que c'est. L'ADN, c'est le fondamental, ce qui est fondamental dans un individu. Eh bien, dans notre société, on a un ADN aussi.
La social-démocratie, c'est pas pour vous, à l'évidence.
Non, je crois qu'on serait dans l'erreur. On serait dans l'erreur. Et il me semble qu'on a besoin d'avoir des décisions fortes, fortes dans notre pays. Vous savez, moi, je regarde souvent ce qui a été fait dans ma ville. Voilà. Et les services publics sur l'eau, sur l'éducation.
Je rappelle aux auditeurs que vous co-gérez avec des socialistes.
Bien sûr. Bien sûr. Donc c'est possible, vous voulez dire. Et voilà, bien sûr, quand on est entendu et quand on est fidèle à ses fondamentaux et à ses marqueurs.
Michel ?
Alors, suite au succès, pour l'instant, dans les sondages de Mélenchon, on a entendu chez les communistes une réaction en disant il y a un accord entre le PS et les Verts. Le PS voulait faire des écologistes leur partenaire, leur naturel. Il faut rééquilibrer, il faut tout rediscuter. Vous êtes sur cette option-là ? Vous pensez aussi que les cartes ont été mal distribuées, qu'il faut les redistribuer ?
Absolument. Je ne sais pas si c'est pour ça que l'évaluation, je ne vais pas dire le score, l'évaluation dans les sondages du score d'Eva Joly, est-ce que ça a, c'est lié à cet accord ? Les électeurs n'aiment pas beaucoup ces arrangements d'appareil. C'est sur le terrain.
Attendez, en même temps, vous dites ouvertement que vous allez au deuxième tour voter François Hollande.
Ah ben c'est pas pareil là.
Bah si.
Attendez. Non. Il n'y a pas de contrepartie. Attendez, on n'a pas fait un accord électoral pour dire bon, vous, le Parti communiste français, vous aurez.
Enfin, 40... votre adhésion n'est pas totalement désintéressée non plus, quand même, Gaby Charroux.
Absolument pas. Non, elle est complètement désintéressée. Elle est sur autre chose, elle est sur un programme. Grande différence. Nous, par exemple, et dans ma circonscription en particulier, cette question a été évoquée. On m'a dit, est-ce que tu veux un candidat socialiste face à toi ou pas ? J'ai dit, mais c'est pas mon problème, ça. Bon, après, lorsqu'il a été question de désignation du suppléant du candidat socialiste, on a laissé penser que je m'étais opposé à ce que François Bernardini soit le suppléant. Absolument pas. Ni la fédération du Parti communiste, ni le député sortant, ni le candidat ne se sont exprimés là-dessus. Ça n'est pas notre problème. Voilà. Et il n'y a pas d'accord de tripatouillage à la base là-dessus. Par contre, grande différence, si vous me permettez, grande différence, après l'élection du président de la République sur le programme et pour une participation à une majorité, évidemment les choses se poseront. Mais c'est très différent. C'est après que les électeurs se seront exprimés.
Michel ?
L'écologie n'a jamais trop fait partie de l'ADN culturel du Parti communiste.
Moi, je parlais de l'ADN de la société française.
PC a aussi un ADN. Hein.
Bien sûr. Issu de la résistance aussi.
Est-ce que vous regrettez néanmoins la disparition dans cette campagne quasiment des thèmes écologistes dans cette campagne ? Est-ce qu'on entend Mélenchon parler de planification écologique, mais c'est pas le thème numéro un qui met en avant ?
Bien sûr, mais c'est un des thèmes. Et vous savez, la planification écologique, elle est partout, dans tous les thèmes que nous abordons. Lorsqu'on parle de l'énergie, par exemple, lorsqu'on dit, parce qu'à un moment donné... Ouais, mais aussi. Lorsque, à un moment donné, il va falloir exprimer un courage politique et utiliser les mots, les vrais. Lorsque on dit il y en a marre du libéralisme et de ce capitalisme-là qui ne fait rien pour l'homme, peut-être que demain il faudra dire dans notre pays il faut nationaliser. un certain nombre de, d'entreprises. Mais une nationalisation avec un vrai pôle de l'énergie, un vrai pôle de l'eau, un vrai pôle
avec
financier.
Un pôle de l'énergie qui inclut quand même les centrales nucléaires, parce qu'on a vu que les communistes, il y a quelques années au conseil régional,
bien sûr.
Et on a se sont opposés aux écologistes pour bien la création d'ITER.
Oui, et on a un point de vue là-dessus. C'est-à-dire
là, il y a une ambiguïté quand même. Mélenchon dit oui, alors
il faudra poser la question
aux
citoyens, il faudra la poser.
Et le Parti communiste est toujours plutôt pour un réinvestissement du public dans le nucléaire, mais
oui, perpétuer
le nucléaire.
Bien sûr, mais il faudra bien regarder dans le domaine du nucléaire ce que on peut faire dans le temps et puis au premier jour. Au premier jour, je ne sais pas si on est capable de faire très vite. Voilà. Donc peut-être ça sera dans le temps, mais peut-être faudra-t-il interroger les citoyens. Là, pour une fois. Parce que les référendums, ils sont mis maintenant un peu à toutes les sortes.
Enfin, on va en faire un référendum,
pour
c'est un peu compliqué.
Ça, c'est un vrai.
Pour une telle question, est-ce que vous êtes pour ou contre les centrales nucléaires? Ça me paraît un
bien
peu biaisé
sûr,
comme
bien
question.
Sûr. Je pense qu'il faudra, pour une fois, peut-être, contrairement à ce qui s'était passé pour le vote pour le traité européen, et où Sarkozy avait réuni le Congrès et puis hop, on avait eu un vote, peut-être il faudra que le Congrès soit réuni. Mais vous savez, peut-être un mot encore, sur le mécanisme européen de stabilité, les seuls élus à l'Assemblée nationale qui ont voté contre, ce sont les députés communistes et du groupe à l'Assemblée nationale.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatche, le Ravi, avec aujourd'hui le candidat Gaby Charroux, candidat Front de Gauche pour les législatives dans la 13e circonscription. Michel Guéraud.
Les législatives, donc c'est l'étape suivante, mais vous êtes déjà en campagne.
Oui, bien sûr.
Alors, ce redécoupage, on parlait du redécoupage de la 13e, c'est une circonscription qui est ancrée à gauche. De fait, l'arrivée dans la circo de Port-Saint-Louis arrange plutôt les affaires de la gauche dans cette circo. Enfin, il y a une volonté un petit peu d'aller chercher des noises à Michel Vauzelle dans la 16e et de tripatouiller tout ça. Vous en pensez quoi de ce redécoupage? Et est-ce qu'effectivement, c'est une circonscription en or quand on est à gauche?
Écoutez, il y a une tradition républicaine, démocratique, à gauche dans cette circonscription. C'est vrai, c'est clair, c'est net. Il y a eu ce redécoupage qui a enlevé une partie de la ville d'Istres pour la ramener dans la circonscription autour d'Arles. Et on a enlevé à cette circonscription la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Bon, alors si on regarde un maire communiste à Port-Saint-Louis, un maire socialiste, enfin, ou voilà, hein, de cette famille-là, à Istres.
Enfin, le bout de la circo qui vous a enlevé, c'est pas celui qui vous était le plus favorable.
Justement, en plus, le bout qui est enlevé, il n'est pas tant favorable que ça. Donc, oui, on peut dire que cet arrangement des frontières de cette circonscription, ben, n'est pas pour nous dérangé. Voilà, aujourd'hui, très sincèrement. Hein. Donc, j'espère qu'elle peut rester.
Chaque gouvernement
non, je trouve que je trouve que c'est assez minable, hein, franchement. Mais on assiste en permanence, hein, tout au long de l'histoire, à des modifications. Voilà, et on en a vécu, hein, ici et là. Chacun peut en citer de nombreuses.
Vous remplacez, comme on l'a dit tout à l'heure, Michel Vaxès, communiste affirmé, déclaré, affiché depuis des années et ancien député sortant. Votre programme, ça va être un programme Front de Gauche ou ça va être un programme, vous qui gérez également avec les socialistes, vous l'avez dit tout à l'heure, un programme de gauche en général?
Écoutez, Michel Vaxès a fait 3 mandats. Il a travaillé beaucoup à l'Assemblée nationale, mais aussi sur le territoire. Je rappelle que les assemblées citoyennes que nous tenons aujourd'hui, de très nombreuses dans le pays, et moi déjà, depuis des mois et des mois, depuis, à vrai dire, depuis le mois d'octobre, hein, on a commencé notre campagne, par des assemblées citoyennes de ce style. C'est lui qui en a lancé l'initiative dans la circonscription, il en a fait. Il a eu des propositions de loi à l'Assemblée nationale, dont une sur laquelle je voudrais revenir, c'est la suppression du mot race dans la Constitution, qui a été reprise il y a quelques jours, par un candidat. Très bien.
Gaby Charroux, c'est peut-être pas ce qu'il y a d'essentiel quand même. quand même. Donc vous n'allez pas faire campagne là-dessus, non ?
Non, alors je viens à votre réponse. Mais enfin, c'est pour dire que, à la réponse à votre question, c'est pour dire qu'il y a un travail qui est fait. Moi, ce que je veux porter au niveau national, parce qu'un député, il travaille à l'Assemblée nationale, et après, évidemment, il répercute ou il s'inspire de ce qui se fait dans, autour de lui, dans sa circonscription. Et moi, je peux m'inspirer de ce qui a été fait depuis des dizaines d'années dans la circonscription, mais dans ma ville, à Martigues, pour... Je prends quelques exemples. Ce que nous avons fait en matière de gestion de l'eau à Martigues, en régie publique, avec une démocratie à l'intérieur de cette régie publique, avec un contrôle et avec un budget équilibré à l'intérieur de la régie, produit aujourd'hui un prix de l'eau qui est imbattable en France. En tout cas dans la région, c'est sûr. 2 euros le mètre cube d'eau, toutes taxes comprises, eau, assainissement. Autour de nous, c'est 50%, 100% de plus, deux fois plus, parfois. Voilà le prix de l'eau. Et pourtant, c'est autonome. Imaginez ce que des grands groupes privés peuvent dégager comme bénéfice pour les actionnaires, alors que nous dégageons...
Ça serait une des lois que...
Ah oui, le pôle public de l'eau. Hein. Le pôle public de l'eau, ça c'est clair.
Sachant que selon, parce que bon, il y a aussi des cas particuliers, selon les lieux, il y a beaucoup de travaux à faire, le public ne pourrait peut-être pas le faire tout seul, il y a le public privé, il y a le privé tout seul.
Mais vous savez...
Vous nationalisez tout, pôle public pour tout le monde.
Écoutez, en matière de l'eau, on parle de l'eau, pour l'instant, uniquement de l'eau, voilà. Nous, aujourd'hui, le problème, c'est que les villes qui ont cédé la gestion de l'eau et de l'assainissement à des entreprises privées, elles ont pris un grand risque. C'est que les réseaux d'assainissement et les réseaux de distribution d'eau, de production d'eau et de distribution d'eau, n'ont pas toujours été entretenus à la même hauteur que, par exemple, nous l'avons fait. Et en dégageant des excédents, puisque le budget, il est fermé, c'est-à-dire on ne peut pas le subventionner, le budget de l'eau. Donc ce sont les recettes qui font les investissements et le fonctionnement d'un service public de l'eau. Pourquoi ce qui est fait là, ici, à Martigues, ne serait-il pas possible ailleurs également ? Voilà. Mais il faut être courageux, il faut prendre les décisions, et ça va coûter, parce que parfois on a laissé les réseaux dans des conditions d'entretien lamentables.
Une proposition comme le tarif social de l'eau, c'est pas plus... c'est pas une pratique qui se verrait tout de suite est moins lourde qu'une renationalisation
Peut-être, mais en tout cas, ça a le mérite d'être posé. C'est comme ça qu'il faudra le poser, peut-être, sur les tarifs et sur la réduction. En tout cas, s'il faut faire par étapes, on proposera de le faire par étapes. Mais en tout cas, très vite, il faut en revenir à une maîtrise du coût et une maîtrise de la qualité et de la distribution. Alors ça, c'était pour l'eau. Mais pour les services publics, l'éducation nationale aussi, il faut revenir à une éducation nationale de qualité. Écoutez, simple exemple, là encore pour montrer comment moi je vais m'inspirer de ce qui se fait au niveau local. Par exemple, on a le lien entre le national et le local. Dans les Bouches-du-Rhône, le gouvernement a demandé au directeur départemental de l'éducationnel dans les Bouches-du-Rhône de trouver 159 postes. Voilà. L'impôt, c'était Bouches-du-Rhône moins 159 postes dans le primaire maternel élémentaire. Bon. L'inspecteur d'académie exécute et trouve 159 postes. Et bien, vous savez comment on les a trouvés ? On les a trouvés dans des suppressions de postes, donc de fermeture de classe, et on les a trouvés surtout par la suppression de 98 postes dans les RASED. Les RASED, ça veut dire réseau d'aide aux élèves en difficulté. Voilà, les élèves les plus en difficulté, eh bien, on a supprimé quasiment tous les RASED, sauf les psychologues scolaires, dans le département du Bouches-du-Rhône. Vous croyez que c'est faire une école de qualité, celle-là ? Voilà, moi je crois que non. De la même façon pour la dépendance, pour les personnes handicapées, même chose, même combat partout. La santé et l'hôpital, il faut revenir. Il y en a assez de cette facturation à l'acte. Bon, les centres de santé mutualistes également, qui sont dans la proximité.
J'allais dire, voilà, Michel Vaxès.
Et on pourrait aller sur plein d'exemples.
Gaby Charroux, votre programme est un programme, j'allais dire, des 30 Glorieuses. C'est plus un programme que l'on peut aborder lucidement en temps de crise. Il ne vous a pas échappé qu'on est dans une crise dite mondiale, que les budgets baissent. Vous avez évoqué tout à l'heure le mécanisme européen de stabilité qui ne tolère plus d'inflation. Comment vous allez faire ? Pour financer tout ça.
Oui.
Et faire des lois là-dessus, ça paraît un peu...
Non, mais il me semble que, vous savez, lorsqu'on prend un programme, ça a une cohérence. Aujourd'hui, ce que nous proposons, ce que nous espérons que dans une majorité de gauche à l'Assemblée nationale, on pourra aménager ensemble. Parce que on n'aura pas, le Front de Gauche n'aura probablement pas, je dis probablement pas, à l'Assemblée nationale, la majorité à lui tout seul. Bon, ok, on pose ça. Donc on va avoir une majorité, on va faire partie d'une majorité parlementaire et on aura donc un travail sur un programme sur lequel on sera mis d'accord. Voilà, il y aura ce programme, il aura une cohérence. Il faut que dans le même temps où on a la volonté de trouver de nouveaux services ou de reprendre des services nouveaux pour les habitants, il faudra qu'on ait les mesures aussi au niveau européen et international, mais aussi au niveau de la dette. On a des propositions sur un pôle public financier. Bon, nous, on souhaite que la Banque Centrale Européenne, elle prête directement aux États. Voilà. Et qu'on ne passe pas par les banques. Vous avez vu tout ceci. Donc, il y a un cadre. Aujourd'hui, on a deux cadres. On a le cadre de la droite ou de l'extrême droite. Et on a un cadre qui pourrait être, j'espère, qui sera celui sur lequel on pourra se mettre d'accord à gauche. Et pour l'instant, ils ne sont pas... Moi, ce que je souhaite, c'est que les deux cadres ne soient pas du tout superposables. Ni en totalité.